ce double aspect de l'œuvre de Carpaccio. Savant, humaniste, renaissant et attaché au récit légendaire, c'est peut-être le cycle de la Scuola dei Schiavoni qui le représente le mieux. Il faut dire que l'œuvre est plus tardive. La vie de Sainte Ursule est quasiment une des 1490, je crois.
C'est une des toutes premières œuvres.
Donc, avec la Scuola dei Schiavoni, Carpaccio est possesseur de tous ses moyens, me semble-t-il. Et on y trouve alors les deux éléments, celui de la légende et celui du savoir quasi abstrait, absolument représenté et, je dirais, symboliquement établi. Et, par exemple, dans la légende de Saint Jérôme, il y a un tableau qui fascine dès qu'on le voit. C'est Saint Jérôme et le lion. On voit un honorable vieillard qui entre dans le tableau, suivi par un lion. La légende est connue, Saint Jérôme lui a enlevé de la patte une épine qui le faisait souffrir, le lion s'est pris de passion pour celui qui l'avait soigné, et le suit. Or, qu'est-ce que fait Saint Jérôme? Il revient, évidemment, auprès de sa communauté et des moines, qui voient le lion, et qui sont terrorisés. Mais le génie de Carpaccio, et qui fuit donc, le génie de Carpaccio, c'est d'avoir montré ses moines habillés d'une robe blanche et d'un surplis presque noir. Et en fuyant, la robe blanche accompagne le corps, mais le surplis traîne un peu derrière, si bien que tout le tableau est une sorte de dessin, de diagonale, du diagonal de ses surplis, qui donne en effet au mouvement et à la scène une vie tout à fait saisissante, tout à fait fascinante.
Il faut bien la fuite et les vêtements qui volent.
Absolument.
Et il y a même un de ces moines que l'on voit en fait de face et qui est en lui-même une espèce de diagonale en raccourci, qui fuit vers le fond du tableau.
Donc il y a un magnifique mouvement et qui est rendu avec quelque chose de très très simple. Et qui, bien entendu, exigeait l'intérêt de Carpaccio pour le dessin. Parce qu'en effet, ces surplis noirs qui traînent derrière chacun de ceux qui les portent sont un dessin, c'est une ligne. C'est comme une ligne. Donc on a une sorte de synthèse de ça, une grande réussite formelle, une très très grande réussite formelle, entièrement versée au compte du récit, et réalisée avec des moyens très 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 simples, quasi quasi naïfs. Et qui donne en effet à la légende toute l'ampleur de la réussite picturale.
Il s'inscrit dans cette culture vénitienne très particulière du point de vue technique, qui est la culture de l'huile sur toile, si je puis dire, si on peut parler de culture, disons, le procédé technique qu'inventent les Vénitiens de l'huile sur toile, qui leur permet donc de révolutionner d'une certaine façon complètement la touche, le goût pour les empattements. Et d'ailleurs, Carpaccio, alors évidemment, on a perdu beaucoup d'huile sur toile de Giovanni Bellini, puisque les décors du Palais Ducal ont été entièrement détruits à la fin du XVIe siècle. Mais en revanche, on a beaucoup de décors à l'huile sur toile donc de Carpaccio, et notamment parmi les premières œuvres qu'il a réalisées, c'est-à-dire les superbes toiles de la Scuola de Sainte-Ursule. Et là, on s'aperçoit qu'il utilise déjà un certain nombre de procédés, si je puis dire, picturaux, qui appartiendront vraiment, qui fonderont l'originalité de la technique vénitienne, c'est-à-dire qu'il travaille sur des toiles en général avec une trame assez grossière, qui permet ainsi de profiter justement de l'irrégularité du support pour faire vibrer en quelque sorte la touche, pour la laisser apparaître et donner donc cette espèce de sensualité, en quelque sorte, du fer pictural, qui deviendra l'une des grandes caractéristiques de la touche vénitienne, à commencer par Titien, bien sûr, mais ensuite chez Tintoret, chez tous les grands peintres du XVIe siècle. Donc on se rend compte que, et c'est quelque chose qu'on ne note peut-être pas assez, que ce qu'on croit appartenir justement en propre à la couleur vénitienne du XVIe siècle est déjà présent, finalement, chez Carpaccio, et donc probablement aussi chez d'autres peintres vénitiens du XVe siècle, dans leur attitude face à cette technique que permet le support irrégulier de la toile.
Et c'est en regardant aujourd'hui des agrandissements photographiques, oui, de ces toiles, qu'on se rend vraiment compte de cette technique et qu'on se rend compte effectivement de l'irrégularité de la toile en dessous, et puis des touches de peinture qui parfois, même pour les visages, sont des touches presque abstraites, enfin, qui ne sont pas complètement dessinées, mais il faut dire qu'il dessine de si petits personnages parfois.
Oui, mais il les dessine souvent avec justement une touche assez libre. Si vous regardez justement, vous parlez à raison des agrandissements photographiques qui effectivement peuvent apprendre beaucoup, et on s'aperçoit soie. Donc, par exemple, pour les toiles de Sainte-Ursule, qu'il utilise déjà souvent une toile à trame en arête de poisson, si vous voulez, d'une certaine façon. Et donc, justement, il tire parti des reliefs de cette toile pour briser son coup de pinceau et donc pour avoir un fer par endroit, même pour les... Ça se voit évidemment d'autant plus sur les petits personnages, presque impressionniste d'une certaine façon, ce qui peut expliquer aussi la séduction qu'il a exercée sur beaucoup d'amateurs à la fin du 19e siècle, qui voyaient cette espèce de sensibilité à la couleur qui pouvait déjà leur évoquer certaines choses qu'ils aimaient à l'époque.
Donc je crois que Carpaccio introduit ça à Venise à un moment tout à fait particulier de l'histoire de Venise, qui est, il faut bien le dire, d'abord une république, ce qui est très singulier en Italie, ce qui est très singulier dans le monde à la même époque, et qui est une république aussi libérale que possible, étant donné l'époque, c'est-à-dire la fin du 15e et le début du 16e. Pétrarque dit à un moment donné que c'est le lieu, c'est un des rares lieux où fleurit la liberté en Italie. Et en effet, la liberté fleurit à ce moment-là, mais pas seulement la liberté. Il y a de grands chantiers qui se mettent en place, notamment celui du Palais Ducal, où Carpaccio va réaliser un certain nombre de fresques qui seront détruites par deux incendies consécutifs. Celui, bien entendu, des scuole, des écoles. Ces écoles représentent des métiers et vont même jusqu'à représenter des corps de métiers ou des associations qui accueillent des étrangers. On peut dire que d'une certaine façon, Venise à cette époque est bien en avance sur ce qu'est par exemple la France aujourd'hui. Il y a en effet des regroupements d'étrangers qui sont là pour défendre leurs intérêts auprès du pouvoir. Et Carpaccio va être lié à eux, puisqu'il est lié à cette Scuola dei Schiavoni, qui en vérité est une école de dalmates, de slaves, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Adriatique, qui font du commerce et qui sont installés là et qui sont des gens très 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 puissants. Donc il y a un énorme mouvement vénitien à l'époque qui encourage d'une certaine façon ce qu'apporte de moderne l'œuvre de Carpaccio et ce qu'elle apporte à Venise, c'est-à-dire ce qu'elle apporte de ce qui se fait au centre de l'Italie dans la cité vénitienne.
Est-ce qu'on peut dire, Marcelin Plenet, que c'est lui qui apporte les valeurs de l'humanisme à Venise ?
C'est lui qui les illustre, en tout cas. Les valeurs de l'humanisme vont être apportées à travers un grand humaniste vénitien qui va avoir une influence assez considérable, d'ailleurs, notamment sur Giorgione, qui est Pietro Bembo, qui écrit un grand poème qui s'appelle « Les Azolani » et qui, en effet, après avoir été ambassadeur à Florence, vient à Venise et convertit l'humanisme florentin, qui encore une fois est un humanisme néoplatonicien et assez idéaliste, et très lié en effet à cet idéalisme, qui le convertit à la vie vénitienne, et à un mode de vie qui est très particulier à Venise. Lorsque Pétrarque, bien plus tôt, dit déjà que Venise est un lieu où la liberté règne de façon tout à fait exceptionnelle, eh bien on voit, contemporain du milieu de la carrière de Carpaccio, c'est-à-dire au début du tout début du XVIe siècle, on voit que Venise possède par exemple le plus grand nombre de courtisanes et même de prostituées de toutes les villes d'Italie, que la vie y est célébrée, qu'un grand vénitien, une grande famille vénitienne qui organise une fête, ça doit être autour de 1520, quelque chose comme ça, invite des courtisanes qu'elle déguise en patriciennes pour participer à cette fête. Donc il y a à la fois une ouverture aux idées et une ouverture aux mœurs nouvelle qui est tout à fait exceptionnelle et qui est liée à ce qui va apparaître aussi dans l'œuvre de Carpaccio, qui est liée à ce qui est particulier à Venise, c'est-à-dire un luxe quasi oriental. Bien évidemment, toute la vie de Venise, toute la fortune de Venise, tout le commerce est tourné vers l'Orient. Ce qui sert aujourd'hui encore de symbole à Venise et qui se trouve sur le porche de la basilique de Saint-Marc, les fameux chevaux de Venise, viennent de Constantinople. Il y a un mode de vie vénitien qui est très luxueux et d'un luxe très particulier pour l'Italie parce que c'est un luxe quasi oriental. Luxe que l'on retrouve d'ailleurs dans l'œuvre de Carpaccio. Autre événement sur lequel on n'a pas vraiment d'informations supplémentaires mais qui est quand même tout à fait étonnant, il semblerait, là encore il y a des historiens qui en discutent, il semblerait que Gentile Bellini, se rendant donc à Constantinople pour faire des portraits du sultan Mohammed II, aurait décoré une partie du palais que ce sultan faisait construire sur le Bosphore et aurait décoré des chambres érotiques. Il n'y a évidemment pas d'exemple dans l'autre œuvre de Bellini qui démontre ça. Mais, vrai ou faux, Une semblable anecdote ne peut surgir que sur un fond qui suppose suffisamment de liberté à un Vénitien pour pouvoir faire cela. Il faut savoir aussi que les peintres vénitiens, contrairement aux autres États, disposaient d'une liberté dans le traitement des cycles de légende qu'aucun autre peintre italien d'aucun autre État ne disposait. Mmh. Ce qui, en effet, a sans doute permis à Carpaccio d'inventer cet accès familier à la légende, de proposer comme approche immédiate de la légende des éléments familiers qui introduisent à quelque chose qui ne sera pas familier et qui va même être difficilement crédible.
Alors là, c'est peut-être pas tant ce luxe oriental, mais ces courtisanes, par exemple, que l'on déguise en patricienne. Ce tableau des deux courtisanes de Carpaccio pose question. Alors, on n'est pas d'accord sur cette interprétation.
Absolument, c'est un tableau qui pose de nombreuses questions. Il semblerait que c'est un tableau qui a été tronqué. Mais bien, c'est un tableau quasi emblématique de l'œuvre de Carpaccio. Si on parle de Carpaccio à qui que ce soit, immédiatement, les deux vénitiennes vont surgir. Et c'est vrai que lorsqu'on passe devant ce tableau au musée Corrère, on est fasciné. C'est un tableau d'une très 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 grande beauté, qui, même dans l'interprétation qui semble aujourd'hui dominer, à savoir que c'était un diptyque qui vraisemblablement servait de porte à quelque chose. Le haut se trouverait aux États-Unis et représenterait des jeunes seigneurs en train de chasser sur la lagune, et le bas serait les deux dames qui ne seraient plus des courtisanes mais qui seraient des vénitiennes qui les attendent. C'est une très 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 belle idée. Ça, ce tableau a ceci de particulier, c'est qu'en effet, il est d'une certaine façon devenu emblématique de l'œuvre de Carpaccio, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on se l'avoue ou qu'on ne se l'avoue pas, parce qu'en effet, il révèle quelque chose de l'intimité de la vie de Venise. Évidemment, ces deux dames sont sur une alta, c'est-à-dire sur un balcon à hauteur, comme il y en a des quantités à Venise, et elles sont dans l'intimité de leur séjour. On voit autour d'elles des animaux qui, bien entendu, ont aussi, comme toujours chez Carpaccio, une valeur symbolique, mais qui ont aussi une valeur anecdotique. On voit la façon dont les femmes de Venise étaient habillées, dont elles se tenaient. On voit que la plus jeune a un collier de perles, alors que la plus âgée a un collier qui est vraisemblablement en or ou en argent tressé. On voit les coiffures et la légende vénitienne qui veut que les vénitiennes devenaient plus blondes en mettant leurs cheveux au soleil. Donc on voit un certain nombre d'événements qui montrent la vie intime de Venise.
Pour les toilettes, ce qui lui plaisait surtout en ce moment, c'était tout ce que faisait Fortuny. Ces robes de Fortuny, dont j'avais vu l'une sur Madame de Guermantes, c'était celle dont elle se tire quand il nous parlait des vêtements magnifiques des contemporaines de Carpaccio et de Titien, nous avait annoncé la prochaine apparition. Renaissant de leurs cendres somptueuses. Car tout doit revenir, comme il est écrit aux voûtes de Saint-Marc, et comme le proclame, buvant aux urnes de marbre et de jaspe des chapiteaux byzantins, les oiseaux qui signifient à la fois la mort et la résurrection.
Il y a une figure qui, moi, m'a toujours fasciné. C'est une figure au premier plan, donc d'un jeune homme de dos qui a un grand chapeau de velours rouge Et grâce à la liberté de la touche, encore une fois, grâce à cette sensibilité pour la matière et pour la lumière qui est propre aux artistes vénitiens, Carpaccio donne à ce détail une force tout à fait étonnante qui attire l'œil dans le tableau, puisque le personnage est de dos, donc c'est une façon aussi de nous convoquer dans l'espace du tableau d'une façon tout à fait admirable. Et ce détail est complété là aussi par un rendu de la chevelure blonde de ce jeune homme qui est tout aussi admirable, et ensuite donc une grande veste de brocart avec donc les effets de soie, là aussi la lumière qui brille sur la soie, tout cela,
la lumière dans les cheveux,
la lumière dans les cheveux qui est quelque chose de tout à fait fascinant.
Il y a un aspect que vous évoquez à propos du studio de Saint-Augustin, à propos de la vision de Saint-Augustin, et que l'on va retrouver peut-être de différentes manières un peu partout dans son œuvre, eh bien c'est cette lumière, et ce sont ces éclats de lumière, qui sont de véritables perles de lumière en fait, que l'on trouve absolument partout, sur tous les détails, dans les cheveux des gens, sur les visages.
Là encore, comme pour presque tout, la clé de ce qui pose question dans l'œuvre de Carpaccio, c'est Venise. C'est-à-dire qu'en effet, ces sources de lumière, le plus souvent dirigées dans le Saint-Ursule ou dans le Saint-Augustin, le visage est éclairé par la lumière surnaturelle qui vient du côté, eh bien, c'est tout simplement ce que vous constatez en vous promenant à Venise. Vous vous promenez dans une cale très sombre et vous avez brusquement, au bout, une source de lumière qui la traverse et qui éclaire de façon tout à fait inattendu, on dirait même presque miraculeuse, tant qu'on ne s'est pas aperçu que c'est un bâtiment tout simplement qui laisse passer le soleil, un pan de mur ou un pan de jardin. Je suis convaincu que on ne peut pas vraiment bien connaître Venise sans connaître Carpaccio. Il fait apparaître, enfin il précipite si vous voulez, la familiarité que l'on a avec la ville. Parce qu'en effet, il y a vécu, mais il n'y a pas vécu comme on vit à travers une ville en pensant à autre chose. Son vécu est le vécu de Venise. Et l'œuvre de Carpaccio permet de faire une économie dans l'approche de Venise.